Chapitre 3. Odette de l'autre côté. 1. Peu de temps après, Roland allait penser. Toute autre femme, infirme ou non, soudain poussée dans l'allée du marché couvert où elle fait ses emplettes, même si c'est d'une manière peu orthodoxe, par un inconnu qui a élu domicile dans son crâne, poussée jusque dans une petite pièce avec derrière elle un type qui lui crie de s'arrêter, puis, brusquement, retournée, de nouveau poussée dans cette pièce où il n'y a matériellement pas la place d'aller ailleurs, et se retrouvant soudain dans un monde entièrement différent. J'estime qu'en pareille circonstance, toute autre femme aurait presque à coup sûr demandé « Où suis-je ?» avant toute autre chose. Or, la question qu'Odetta Holmes posa sur un ton presque amusé fut « Que comptez-vous faire au juste avec ce couteau, jeune homme ?» 2. Roland regarda Eddie qui était accroupi au-dessus de lui, le couteau à moins d'un centimètre de sa gorge. Quelle que fût la prodigieuse vitesse acquise au long des années de formation, il n'était pas question de pouvoir éviter la lame si Eddie décidait de s'en servir. « Oui, » dit-il, « que comptes-tu faire au juste avec ça ?»« J'en sais rien !» répondit Eddie. Il y avait dans sa voix un profond dégoût de lui-même. Chercher des appâts, je pense. Évidemment, je ne dois guère donner l'impression d'être venu ici pour pêcher. Il lança le couteau en direction de la dame, nettement à droite du fauteuil, cependant. Il se ficha en vibrant dans le sable jusqu'à la garde. Sur ce, la dame se retourna et commença. « Auriez-vous l'amabilité de m'expliquer où vous m'avez ?» Et elle resta là. Toutefois, si elle avait dit « Auriez-vous l'amabilité ?» alors que son regard n'avait pas encore décrit un arc de cercle suffisant pour lui révéler l'absence de tout interlocuteur derrière elle, le pistolero nota avec un intérêt réel qu'elle n'en avait pas moins poursuivi sa phrase quelques instants parce que sa situation dictait un certain nombre d'évidences, même contredites par les faits, entre autres, que si elle était arrivée ici, ce ne pouvait être que poussé par quelqu'un. Bien qu'il n'y eût personne derrière elle. Absolument personne. Elle reporta son attention sur Eddie et sur le pistolero, l'incertitude dans les yeux, la confusion, l'inquiétude, et voilà qu'elle demandait « Où suis-je ? Qui m'a poussé ? Comment se fait-il que je sois là ? Pourquoi suis-je habillé, au fait, alors que j'étais chez moi en robe de chambre à regarder le journal de midi ? Qui suis-je ? « Où est-ce ici ? Qui êtes-vous ? » ?»« Qui suis-je » a-t-elle demandé, songea Roland. La digue s'est rompue sur un déluge de questions ainsi qu'il était prévisible. Mais il en est une, « Qui suis-je ?» allant contre toute attente, et dont je sens qu'elle n'a toujours pas conscience de l'avoir posée, ni conscience du moment où elle l'a posée. Car elle avait dit ça avant. Avant même de leur demander qui ils étaient, elle s'était inquiétée de savoir qui elle était. 3. Les yeux d'Eddie allèrent du beau, jeune, vieux visage de la femme noire dans le fauteuil roulant à celui du pistolero. Comment se fait-il qu'elle ne le sache pas ?
Difficile à dire. Le choc, je suppose.
Un choc ? Qu'il aurait surprise chez elle, dans son salon, avant de sortir pour aller chez Mrs. Tu m'as bien dit que son dernier souvenir, c'est qu'elle était en peignoir, devant sa télé, en train d'écouter je ne sais quel minet brushingé de frères, raconter qu'on a retrouvé ce Gus au fin fond des Keys, en Floride, avec la main gauche de Christa McAuliffe accrochée au mur de son cabanon, à côté de l'espadon de 2 mètres.
Roland s'abstint de répondre. Plus éberlué que jamais, la dame demanda.
« Qui est Christa McAuliffe ? Est-elle de ces marcheurs de la liberté qui ont disparu ?»
Ce fut au tour d'Eddie de ne pas répondre. « Les marcheurs de la liberté ? Qu'est-ce que c'était que ces oives ?»
Le pistolero lui jeta un regard qu'il n'eut aucun mal à interpréter.
Ça ne te crève pas les yeux qu'elle est en état de choc. Je vois ce que tu veux dire, Roland, mon vieux copain. Mais ça ne colle que jusqu'à un certain point. Moi-même, j'ai subi un choc quand t'as déboulé dans mon crâne, façon Starsky et Hutch. Mais mes banques de données n'en ont pas pris un coup, que je sache. À propos de choc, il venait de se payer une jolie décharge quand elle avait franchi le seuil. Il était agenouillé au-dessus du corps inerte de Roland, le couteau presque posé sur la chair vulnérable du cou, mais, à la vérité, il n'aurait jamais pu poursuivre son geste. Pas pour l'heure, du moins. Il était fasciné par la porte parce qu'il y voyait une allée de Mrs. qui se ruait vers lui et repensait de nouveau à Shining, à cette séquence où l'on voit ce que voit le gamin quand il fait du tricycle dans les couloirs du palace hanté, revoyait le moment où le gosse, au bout d'un de ces couloirs, tombe sur ses horribles jumelles fantômes. Ce qu'il y avait au bout de l'allée n'avait rien d'aussi fantastique, une simple porte blanche où était écrit en caractère discret « Pas plus de 2 articles par essayage ». Ouais, pas de problème. On était bien chez Mrs. C'était du Mrs. tout craché. Une main noire jaillit et poussa la porte, cependant que derrière, une voix masculine, celle d'un flic, Eddie l'eût reconnu entre 1000, n'eût-il entendu ce genre de voix qu'une fois dans sa vie, ce qui était loin d'être le cas, criait à la propriétaire de la main de s'arrêter, que c'était une impasse, qu'elle ne faisait qu'aggraver les choses. Dans la glace, sur sa gauche, Eddie entrevit le fauteuil et son occupante. Il se souvenait avoir pensé « Il l'a eu, c'est sûr. Mais on ne peut pas dire que ça ait l'air de l'enchanter. » Puis, la vue avait pivoté et Eddie s'était vu. Le spectacle s'était rué sur son spectateur et celui-ci avait failli lever la main tenant le couteau pour se protéger les yeux tant la soudaine sensation de regarder le monde par 2 paires d'yeux était intense, tant elle était folle, tant elle risquait de le faire basculer dans la démence s'il ne s'y soustrayait pas. Mais alors, tout arriva trop vite pour qu'il en eût le temps. Le fauteuil franchit la porte. De justesse. Les moyeux crissèrent sur le chambranle invisible. Au même instant, Eddie perçut un autre bruit, un déchirement visqueux, qui le fit penser à un mot. Placentaire. Lequel ne put vraiment lui venir à l'esprit parce qu'il ne se savait pas le connaître. Puis la femme roula vers lui sur le sable tassé de la grève, et elle n'avait plus l'air d'une furie, plus grand-chose de commun en l'occurrence avec celle dont il venait d'entrevoir le reflet dans la glace. Mais Eddie n'en était pas outre mesure surpris. Quand on passait tout d'un coup d'une cabine d'essayage du Mrs. à un bord de mer dans quelque monde oublié de Dieu, où les homards pouvaient atteindre la taille de petits collets, on avait le droit d'être un peu secoué. Il estimait pouvoir en apporter un témoignage personnel. Elle parcourut encore 1 mètre avant de s'arrêter et n'alla si loin qu'en raison de la pente et de la compacité du sable. Ses mains ne poussaient plus sur les roues comme elle avait dû le faire. Eddie devinait avec quelle énergie. « Quand demain matin vous vous réveillerez avec des douleurs dans les épaules, songea-t-il acerbe, c'est à Messire Roland qu'il faudra vous en prendre, ma petite dame. » Et elles allaient étreindre à la place les bras du fauteuil alors que le regard de l'infirme se posait sur les 2 hommes. Derrière elles, la porte entre les mondes avait déjà disparu. Disparu n'était peut-être pas le meilleur terme. Elle avait donné l'impression de se replier sur elle-même comme un morceau de pellicule repartant à l'envers. Le phénomène avait commencé de se produire à l'instant où le détective du magasin avait ouvert cette autre porte plus ordinaire, se bornant à préserver l'intimité de la cabine d'essayage. L'avait ouverte, ou plutôt enfoncée, tant il s'attendait à ce que la voleuse en eût rabattu le loquet, et avec une telle violence qu'Eddie l'avait jugé sur le point de se payer un putain de plat contre le mur d'en face. Pronostic que le jeune homme ne devait jamais voir confirmé ou infirmé. Avant que l'ouverture de ce monde sur l'autre ne se fût totalement résorbée, la scène qui s'y inscrivait se figea. Le film se terminait par un arrêt sur image. Ne demeurait de ces péripéties mouvementées que la double trace du fauteuil démarrant d'un sableux nulle part pour s'achever 1 mètre plus loin, là où lui et son occupante s'étaient immobilisés. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer où je suis et comment j'y suis arrivé ? Demanda cette dernière d'une voix presque suppliante. Une chose est sûre, Dorothy, dit Eddie. Ce n'est plus le Kansas. »
Elle était au bord des larmes. Il la vit lutter pour les retenir, perdre, se mettre à sangloter. Furieux et avec un égal dégoût pour lui-même, il se tourna vers le pistolero qui se relevait, chancelant. Roland s'éloigna, mais pas vers la dame en pleurs. Il alla ramasser son couteau.
« Dis-lui !» hurla Heidi. « Tu l'as amené, alors maintenant, vas-y, dis-lui !»
Et au bout d'un moment, il ajouta, plus bas,
« Et puis tu m'expliqueras comment ça se fait qu'elle ne sache même plus qui elle est. »
4. Roland ne répondit pas. Pas tout de suite. Il se baissa, pinça entre les doigts restants de sa main droite le manche du couteau qu'avec le plus grand soin, il transféra ensuite à la gauche pour le ranger dans sa gaine sur le côté du ceinturon. Il essayait toujours d'appréhender ce qu'il avait senti dans l'esprit de la dame. À la différence d'Eddie, elle s'était débattue comme un chat, depuis l'instant où il était passé au premier plan jusqu'à celui où ils avaient franchi la porte. La lutte avait commencé dès qu'elle l'avait senti. Sans le moindre temps mort, parce qu'il n'y avait pas eu de surprise. C'était cela qu'il avait senti, cela dont il n'avait pas le plus petit début de compréhension. Aucune surprise à l'éruption de cette présence étrangère dans son cerveau. Rien que la rage et l'horreur immédiate et l'immédiat début d'un combat pour l'en déloger. Un combat qu'elle n'avait même jamais été prête de gagner. Qu'elle n'aurait pu gagner, suspectait-il. Mais qu'elle n'avait pas moins livré sans relâche. C'était une femme folle de peur, de colère et de haine qu'il avait sentie. Rien que noirceur en elle, un esprit muré dans les ténèbres d'un émoulement. Sauf qu'à l'instant où ils avaient jailli en ce monde, où ils s'étaient séparés, il avait regretté, amèrement regretté, de ne pouvoir rester ne fût-ce qu'une seconde de plus. Une seconde qui lui aurait tant appris. Car cette femme, devant eux, n'était pas celle qu'il venait de quitter. Être dans l'esprit d'Eddie avait été comme de séjourner dans une pièce au mur qui suintait et se trémoussait. Être dans celui de la dame, c'était se retrouver couché, nu, dans le noir, avec des serpents venimeux que l'on sentait ramper tout autour. Jusqu'à la fin. Car à la fin, elle avait changé. Et il y avait eu quelque chose d'autre, quelque chose qu'il pensait être d'une importance vitale, mais qu'il ne pouvait soit comprendre, soit se remettre en mémoire. Quelque chose comme un coup d'œil, la porte, mais dans le cerveau de cette femme. Quelque chose à propos « Tu as cassé le plat, c'était toi. » Quelque soudain éclair de compréhension, comme dans l'étude, quand on finit par voir « Ah, que le diable t'emporte !» dit Eddie écœuré. « Tu n'es rien qu'une putain de machine !» Il passa sans s'arrêter devant Roland, s'approcha de la femme, s'agenouilla près d'elle, et quand elle l'entoura de ses bras, s'accrocha à lui comme un nageur qui se noie, il ne fit rien pour se dégager de l'étreinte, mais à son tour la prit dans ses bras, la serra contre lui. « Ça va, » dit-il. « Pas que ce soit génial, mais ça va. »« Où sommes-nous ?» gémit-elle. « J'étais chez moi, regardais la télé, je voulais savoir si mes amis s'étaient sortis vivants d'Oxford, voilà que je me retrouve ici et que je ne sais même pas où c'est. »« Moi non plus, en fait. » Il la serra plus fort, commença de la bercer. « Mais nous y sommes ensemble, à mon sens. » Je viens du même coin que vous, de ce bon vieux New York, et il m'est arrivé à peu près la même chose, enfin, à quelques variantes près, mais la même chose, ça va bien se passer. » Comme s'il y repensait tout d'un coup, il ajouta « Du moment que vous aimez le homard. » Elle s'accrochait à lui et pleurait, il la tenait dans ses bras et la berçait. Le pistolero pensa « Pour lui maintenant. » Ça va aller. Son frère est mort, mais il a quelqu'un d'autre dont il pourra s'occuper. Oui, ça va aller. Mais ce ne fut pas sans un serrement de cœur, sans un douloureux reproche.
Il avait la faculté de tirer, de la main gauche du moins, de tuer, d'avancer sans relâche dans sa quête de la tour, de s'y obstiner avec un acharnement brutal sur des milles, sur des années, voire sur des dimensions. Il avait la faculté de survivre et même, de temps à autre, de protéger. N'avait-il pas sauvé l'enfant, Jake, d'une mort lente au relais, puis au pied des montagnes, de l'oracle qu'il aurait sexuellement consumé, mais pour en fin de compte le laisser mourir? Et il ne l'avait pas fait par accident. Il s'était agi d'un acte conscient, d'une damnation librement acceptée. Il les regardait tous les deux, et voyant Teddy serrer la femme dans ses bras, lui répéter que tout allait bien se passer, il se disait qu'il n'aurait jamais pu en faire autant. Et voilà qu'une terreur insidieuse venait rejoindre en lui l'amertume. « Si tu as renoncé à ton cœur pour la tour, Roland, tu as d'ores et déjà perdu. Un être sans cœur est un être sans amour, et un être sans amour est une bête. Être une bête est peut-être supportable, encore que l'homme qui accepte de se ravaler à ce rang finira sûrement par payer son tribut à l'enfer. Mais pourquoi pas, si atteindre son objectif est à ce prix? Si son cœur a réussi à investir la tour et à la conquérir? Mais si tu n'as en toi que noirceur, que peux-tu faire sinon régresser de l'animal au monstre? Devenir un animal à l'issue de tout cela relevait de la plaisanterie amère, comme d'offrir une loupe à un élaphonte. Mais devenir un monstre, c'était payer son tribut à l'enfer est une chose, mais souhaiterais-tu emporter tout le poids sur les épaules? Il repensa à Ali et à la fille qu'il avait jadis attendue à sa fenêtre, repensa aux larmes qu'il avait versées sur le corps sans vie de Cuthbert. Oh, à l'époque, il avait aimé. Oui, à l'époque.
« Je veux aimer !»
sanglota-t-il en silence. Mais alors qu'Eddie joignait ses larmes à celles de la femme dans le fauteuil roulant, les yeux du pistolero restaient désespérément secs, comme le désert qu'il avait traversé pour atteindre cette mer sans soleil. 5. Il répondrait plus tard à la question d'Eddie. Plus tard, mais il y répondrait. Car il estimait qu'Eddie avait intérêt à rester sur ses gardes. Si elle ne savait plus qui elle était, la raison en était fort simple. Elle n'était pas une femme, mais deux. Et l'une des deux était dangereuse à l'extrême. 6. Eddie lui raconta ce qu'il put, glissant sur le règlement de compte, mais sincère sur tout le reste. Quand il eut achevé son récit, elle resta un moment parfaitement silencieuse, les mains réunies dans son giron. Des ruisseaux dévalaient des montagnes qui ne cessaient de s'affaisser, les dévalaient sans jamais atteindre l'océan, et allaient se perdre à quelques milles à l'est de la plage qu'Eddie et Roland remontaient vers le nord. C'est là qu'ils allaient remplir les autres corvées qu'Eddie avait assurées seul au début. Roland était encore trop faible. Mais plus tard, ils y étaient allés à tour de rôle, ayant à s'enfoncer toujours plus loin et à chercher plus longtemps pour trouver ces ruisseaux, toujours plus nonchalants à mesure que diminuait la hauteur des sommets où ils prenaient leur source. Toutefois, le Rhône ne les avait jamais rendus malades. Jusqu'à présent. Roland y était allé hier, et bien que ce fût le tour d'Eddie, y était retourné aujourd'hui, prenant les outres en bandoulière et s'éloignant sans un mot. Geste qu'Eddie trouva d'une singulière discrétion, sans vouloir en être touché, comme par tout ce qui venait du pistolero en l'occurrence, s'en découvrant néanmoins touché. Un peu. Elle prêtait une oreille attentive à Eddie sans jamais l'interrompre, les yeux rivés sur lui. Il y avait des moments où le jeune homme lui donnait 50 plus que lui, d'autres où il allait jusqu'à 15, mais ce sur quoi il n'avait aucun doute, c'était de tomber amoureux d'elle. Quand il eut fini, elle resta un moment sans rien dire, cessant de fixer le jeune homme pour poser son regard au-delà sur les vagues qui, à la tombée de la nuit, ramèneraient les monstrueux crustacés et leur incompréhensible kyrielle de questions. Il avait apporté un soin particulier à les décrire. Mieux valait qu'elle eût un petit peu peur maintenant que beaucoup plus tard quand il sortirait se dégourdir les pinces. Elle allait refuser d'en manger, supposait-il, après avoir entendu ce que les créatures avaient fait aux pieds et à la main de Roland, à plus forte raison une fois qu'elle les aurait vues de près. Mais la faim finirait bien par triompher de
« Et ce que chic et eu ce que chule !»
Elle avait maintenant dans les yeux quelque chose de lointain. « Odette ?» fit-il après que peut-être 5 minutes se furent écoulées. Elle lui avait dit son nom, Odette Holmes, un nom qu'il trouvait grandiose. Arrachée à sa rêverie, elle ramena les yeux sur lui, eut une esquisse de sourire, et dit un mot, un seul. Non. Il ne fit d'abord que lui rendre son regard, incapable de trouver une réponse qui convînt. Il pensait n'avoir jamais compris jusqu'alors à quel point une simple négation pouvait être illimitée. « Je ne vous suis pas, » finit-il par dire. « À quoi dites-vous non ?»« À tout ça. » Le bras d'Odetta traça un vaste demi-cercle, un bras dont il avait déjà remarqué l'extrême vigueur, lisse et galbé, mais sous-tendu de muscles durs, montrant la mer, le ciel, la plage, les collines pelées où le pistolero devait être à la recherche d'un cours d'eau, à moins qu'il ne fût en train de s'y faire dévorer par quelque monstre d'une intéressante et nouvelle espèce, éventualité sur laquelle Eddie n'avait guère envie de s'attarder. Montrant, en bref, l'ensemble du monde. Je vois ce que vous ressentez. Au début, j'ai moi-même eu l'impression de nager dans l'imaginaire. Mais l'avait-il eu, cette impression? Avec le recul, il lui semblait avoir tout de suite admis la réalité de ce monde. Peut-être parce qu'il était malade, trop occupé à secouer sa guenon. « Ça vous passera, » dit-il. « Non, » répéta-t-elle. « Je ne vois que 2 choses qui aient pu m'arriver, et que ce soit l'une ou l'autre, je suis toujours à Oxford, Mississippi. Rien de tout ceci n'est réel. » Elle continua à parler. Si elle avait parlé à rien plus fort, ou s'il n'avait pas été lui-même en train de tomber amoureux, cela aurait presque eu l'air d'une conférence. En tout cas, la comparaison avec une ode lyrique s'imposa d'emblée. À ceci près, s'astreignit-il à penser que toute cette absurdité qui nous entoure s'avère bien réelle et que tu vas avoir à l'en convaincre, pour son bien. « Je puis avoir été touché à la tête, » dit-elle. C'est qu'ils sont notoirement experts à manier matraque et manche de pioche à Oxford Town. Oxford Town. Il naquit un faible écho tout au fond des souvenirs d'Eddie. Elle avait dit ces mots dans une sorte de rythme qui, pour quelque motif, lui renvoyait Henry. Henry et des couches-culottes. Quoi? Pourquoi? Aucune importance pour l'heure. Vous voulez dire que tout ça pourrait n'être qu'une sorte de rêve que vous faites alors que vous êtes dans les pommes? Ou dans le coma? Et vous n'avez pas besoin de me regarder comme si c'était absurde, parce que ça ne l'est pas. Regardez. Elle partagea ses cheveux sur la gauche, si bien qu'Eddie put constater que ce n'était pas par simple coquetterie qu'elle les portait d'un seul côté. La vieille plaie au centre de la plaque à présent découverte était vilaine, dégarnie. Toron blanc-gris tranchant sur la peau brune. Je vois que vous avez dû en baver. En baver et avoir du bon temps. Je suppose que ça rétablit l'équilibre. Mais je ne vous montrais ça que pour vous dire qu'à l'époque, je suis resté 3 semaines dans le coma. J'avais 5 ans. J'ai fait un tas de rêves qui me sont sortis de la tête. Mais maman m'a toujours dit que c'était grâce à eux qu'ils avaient gardé quelque espoir. Ils savaient que je n'allais pas mourir du moment que je parlais. Et il semble que je parlais tout le temps, même si, d'après elle, il n'y avait pas 1 mot sur 10 qui fût compréhensible. Et ses rêves étaient extraordinairement réalistes, ça je m'en souviens. Elle marqua une pause, promena son regard autour d'elle. « Pas moins que cet endroit. Pas moins que vous, Eddie. » En entendant dans sa bouche les syllabes de son nom, il eut la chair de poule. Ouh là là, c'était du sérieux. Ou que lui. Elle frémit. De tout, c'est lui qui a l'air le plus réel.
Normal, je veux dire, nous sommes réels, quoi que vous en pensiez.
Elle lui adressa un petit sourire, à l'évidence incrédule.
Comment vous l'avez récolté ? Enchaîna-t-il. Cette cicatrice ?
Aucune importance. C'était simplement pour vous faire comprendre que ce qui est arrivé une fois peut toujours se reproduire.
Peut-être, mais je vous demande ça par curiosité.
Une brique m'est tombée sur la tête. C'était la première fois qu'on montait dans le nord, pas très loin de New York, à Elizabeth, dans le New Jersey. On était venu en train, dans le wagon à Jim Crow.
Qu'est-ce que c'est ?
Elle écarquilla les yeux, sa surprise presque méprisante. « Mais où avez-vous vécu, Eddie ?
Dans un abri anti-atomique ?
Non, dans un autre temps. Puis-je vous demander votre âge, Odette ? Assez vieille pour voter, pas assez pour l'assistance sociale.
Bon,
voilà qui me remet à ma place, je suppose. Mais gentiment, j'espère. »
Et son sourire radieux hérissa de nouveau les avant-bras d'Eddie.
« J'ai 23 ans, dit-il, mais je suis né en 1964, l'année même où Roland vous a prise. »
« Bêtise.
Non, moi c'est de 1987 qu'il m'a tiré. »«
Ma foi, » fit-elle au bout d'un moment, ironique.
« Voilà qui plaide à coup sûr en faveur de votre théorie sur la réalité de ce monde, Eddie. »
Le wagon à Jim Crow, c'est là que les Blacks étaient tenus de voyager.
Les gens de couleur, rectifia-t-elle. Nous appeler Black est un peu péjoratif, non ?
Vous ne vous donnerez pas d'autres noms dans les années 80, dit Eddie.
Quand j'étais gosse déjà, dire à un copain Black qu'il était de couleur, c'était s'exposer à recevoir son poing dans la gueule. Il pensait qu'on se foutait de lui, tout juste s'il n'aurait pas préféré être traité de nègre.
Elle le regarda, plus trop sûre d'elle, puis secoua de nouveau la tête.
« Bon, » fit Eddie, « revenons à cette histoire de briques. » La plus jeune sœur de ma mère allait se marier. Elle s'appelait Sophia, mais maman disait toujours « sœur bleue » parce que c'était la couleur qu'elle adorait. Enfin, qu'elle adorait adorer, comme disait maman. Donc, je l'ai toujours appelée « tante bleue », même avant de la connaître. Un beau mariage, avec une réception, après. Je me souviens de tous les cadeaux. Elle rit.
Ça a toujours l'air si beau, les cadeaux, quand on est gosse, vous ne trouvez pas ?
Eddie ?
Il sourit.
Ouais, c'est vrai. On n'oublie jamais un cadeau. Qu'on l'ait reçu ou qu'on ait vu quelqu'un d'autre le recevoir.
Mon père gagnait déjà de l'argent à l'époque. Mais tout ce que j'en savais, c'était que nous étions en progrès. Là encore, c'est une expression de ma mère. Je lui avais raconté qu'une petite fille avec laquelle je jouais m'avait demandé si mon papa était riche, et elle m'a dit ce que j'étais censé répondre si l'on venait à me reposer la question, que nous étions en progrès. On était donc en mesure d'offrir à Tante Bleue un service en porcelaine de toute beauté, et je me souviens...
La voix lui manqua. Elle porta une main à sa tempe et la massa distraitement comme si une migraine y prenait naissance.
« De quoi, Odetta ?»«
Que ma maman lui a donné à part un plat pour les grandes occasions. »«
Qu'est-ce que c'est ?»«
Excusez-moi, j'ai mal à la tête et ma langue a fourché. »«
Je me demande d'ailleurs pourquoi je vous raconte tout ça. »«
Ça vous embête ?»
Non, pas du tout.
Je voulais dire que ma mère lui avait offert un plat spécial, blanc, avec de jolis filets bleus sur le bord.
Elle sourit. Eddie n'eut pas l'impression d'un sourire parfaitement serein.
Il semblait y avoir dans l'évocation de ce plat quelque chose qui la perturbait, et la manière dont ce souvenir prenait le pas sur la situation des plus étranges où elle se trouvait actuellement, situation qui aurait dû requérir l'essentiel de son attention, le perturbait, lui. « Je revois ce plat aussi nettement que je vous vois, Eddie. Ma mère l'a donné à Tante Bleue qui a fondu en larmes. Je crois qu'elle en avait vu un pareil dans la vitrine d'un magasin alors qu'elle et maman étaient encore gamines et qu'à l'époque, bien sûr, leurs parents n'auraient jamais pu se permettre un tel achat. Elle n'avait jamais rien eu qui fût pour les grandes occasions dans leur enfance. » Après la réception, Tante Bleue et son mari étaient partis dans les Smoky Mountains pour leur lune de miel. Ils avaient pris le train. Elle regarda Eddie. « Dans le wagon à Jim Crow ?» dit-il. « Exact. Dans le wagon à Jim Crow. » À l'époque, les gens de couleur n'en connaissaient pas d'autres. Le train regroupait les trois classes, servait de wagon-lit et de wagon-restaurant. C'est pour essayer de changer ce genre de choses que nous sommes à Oxford Town. » Elle gardait les yeux fixés sur lui, s'attendant sans doute à ce qu'il insistât sur sa présence ici et non là-bas. Mais il était de nouveau pris dans l'enchevêtrement diffus de ses propres souvenirs. Oxford Town. À ceci près que d'autres mots avaient maintenant refait surface. Rien qu'un fragment de refrain qu'il entendait Henry seriner d'une voix nasillarde, jusqu'à ce que leur mère demande à son grand garçon s'il pouvait avoir la gentillesse de la laisser écouter Walter Cronkite. « Qu'attend-on pour enquêter ?» répétait Henry dans sa mémoire. Il essaya d'y retrouver le reste du refrain, mais peine perdue. Sans grande surprise d'ailleurs, les couches culottes tendaient à situer le souvenir dans sa quatrième année au maximum. Qu'attend-on pour enquêter ? La question lui donnait froid dans le dos. « Ça va, Eddie ?»« Oui, pourquoi ?»« Je ne sais pas, vous tremblez. » Il sourit. « Donald a dû marcher sur ma tombe. » Elle rit. « Toujours est-il qu'au moins, je n'ai pas gâché la noce. C'est arrivé le lendemain matin au moment du départ. » Nous avions passé la nuit chez un ami de Tante Bleue et mon père a appelé un taxi qui s'est présenté sans tarder. Mais quand le chauffeur a vu qu'il avait affaire à des gens de couleur, il a redémarré aussitôt comme s'il avait le feu où je pense. L'ami de Tante Bleue était déjà parti devant avec deux de nos valises. C'est qu'on était chargé. On devait rester une semaine à New York. Je me rappelle papa me disant qu'il avait hâte de voir mon visage s'illuminer quand j'allais découvrir le carillon de Central Park en train de frapper l'heure avec tous les animaux qui dansaient. Mon père a dit qu'on ferait aussi bien d'y aller à pied, et ma mère a sauté sur cette idée, disant qu'elle était excellente, qu'il n'y avait après tout guère plus d'un kilomètre et demi d'ici à la gare, et que ça nous ferait le plus grand bien de nous dégourdir les jambes après ces trois jours passés dans le train qui nous avait amenés du sud, et alors qu'une demi-journée nous attendait encore pour rejoindre New York. Mon père a dit qu'il était tout à fait d'accord avec elle et que, d'ailleurs, il faisait un temps splendide. Mais je crois que même si je n'avais que 5 ans, je me suis rendu compte qu'il était furieux et qu'elle était gênée, que tous deux craignaient d'appeler un autre taxi parce que la même chose risquait de se reproduire. On a donc commencé à descendre la rue. Je marchais du côté des maisons parce que maman aurait eu trop peur de me voir sur le bord du trottoir avec toutes ces voitures qui passaient. Je me rappelle m'être demandé si mon papa voulait vraiment dire que ma figure allait s'allumer comme une lampe ou quelque chose du genre quand j'allais voir cette horloge à Central Park, et si ça ne risquait pas de me faire mal. Et c'est à cet instant que j'ai reçu la brique sur la tête. Tout est devenu noir pendant un moment. Puis je me suis mis à rêver. Des rêves extraordinairement réalistes. Elle sourit. « Comme ce rêve-ci, Eddie. » La brique est tombée seule ou il y avait quelqu'un pour la lancer ? On n'a jamais trouvé personne. La police, ma mère me l'a dit beaucoup plus tard alors que j'avais dans les 16 ans, a examiné l'endroit d'où, selon eux, provenait la brique. Il y en avait d'autres qui manquaient et bon nombre de décellés. C'était juste à l'extérieur d'une fenêtre au 3e étage d'un immeuble condamné, que ça n'empêchait pas d'être habité, bien sûr, la nuit surtout. J'imagine. Dit Eddie. On n'avait vu personne en sortir, alors on a conclu à un accident. Ma mère disait qu'à son avis, ça n'avait pu être autre chose, mais j'ai l'impression qu'elle mentait. Elle n'a même jamais essayé de me dire ce que mon père en pensait. Il ruminait toujours cette histoire de chauffeur de taxi qui avait jeté un regard sur nous pour redémarrer aussitôt. C'était ça, plus que tout le reste, qui pouvait leur faire admettre que quelqu'un ait pu être là-haut à jeter un coup d'œil par la fenêtre, à nous voir, et à se dire que lâcher une brique sur cette famille de nègres ne serait pas une si mauvaise idée. « Vos crustacés vont-ils bientôt venir ?»« Non, » répondit Eddie, « pas avant le crépuscule. » « Bon. Donc, l'une de vos hypothèses concernant ce monde où nous sommes est qu'il s'agit d'un rêve de coma, comme vous en avez eu après vous être fait assommer par cette brique. Sauf que cette fois, c'était par une matraque ou un instrument du même type. » « Oui. Et quelle est l'autre hypothèse ?» Si la voix et les traits d'Odetta conservaient un calme relatif, son crâne était le théâtre d'un hideux maelstrom d'images qui se superposait pour donner Oxford Town. Oui, Oxford Town. Comment c'était la suite? Déjà deux s'y sont fait tuer. Qu'attend-on pour enquêter? Pas vraiment dans le mille, mais près. Très près. Que je suis devenue folle, dit-elle. 7. La première réponse qui lui vint à l'esprit fut « Si vous croyez que vous êtes devenue folle, Odetta, c'est que vous êtes cinglée. » Un rapide examen lui présenta toutefois cette réponse comme peu susceptible de convaincre qui que ce soit. Il choisit donc de garder le silence quelque temps, assis auprès du fauteuil, les genoux sous le menton, les mains verrouillées, chacune en serrant le poignet de l'autre. Vous êtes vraiment accro à l'héroïne ? Je le suis. C'est comme de fonctionner à l'alcool ou au crack. Pas le genre de truc dont on se débarrasse à jamais. Quand j'entendais ça dans le temps, je me disais « Oui, oui, on lui dira. » Mais maintenant, je comprends. J'en ai encore envie. Et je pense qu'une part de moi en aura toujours envie. Mais le besoin physique est passé. Qu'est-ce que c'est, le crack ? On n'a pas encore inventé ça à votre époque. C'est un dérivé de la cocaïne, à ceci près que ça revient à transformer de la dynamite en bomba. Et vous en preniez ? Dieu me préserve, non. Je vous l'ai déjà dit, mon truc, c'était l'héro. Vous n'avez pas l'air d'un drogué. Juste. Eddie était plutôt coquet. Enfin, mis à part l'odeur de fauve qui montait tant de lui que de ses vêtements. Il avait la possibilité de les passer à l'eau, de s'y plonger lui-même, et ne s'en privait pas, mais sans savon, le résultat n'était guère concluant. Il avait les cheveux courts quand Roland était entré dans sa vie. « Rien de mieux pour passer la douane, mon cher. » Comique, vu la manière dont les choses avaient tourné. Et il restait d'une longueur convenable. Il se rasait tous les matins avec le couteau extraordinairement affilé de Roland. À sa maladresse du début avait succédé une assurance croissante. Il avait été trop jeune quand Henry était parti pour le Vietnam pour que se raser tînt une grande part dans sa vie. Et le retour du grand frère n'avait pas trouvé cette part fort grandie. Sans jamais aller jusqu'à se laisser pousser la barbe, il lui arrivait alors de résister 3 ou 4 jours au harcèlement maternel, lui ordonnant de tondre le chien dent. Toutefois, Henry était revenu de là-bas maniaque sur le sujet. Comme sur un certain nombre d'autres points de détail du même ordre, se saupoudrer les pieds d'un produit contre la transpiration après chaque douche, 3 ou 4 brossages quotidiens des dents suivis d'un bain de bouche prolongé pour faire passer le goût du dentifrice, les vêtements toujours impeccables sur un cintre, et il avait converti Eddie au même fanatisme. Le chien-dent était désormais tondu matin et soir. L'habitude s'était enracinée en lui comme tant d'autres qu'il devait à Henry, y compris celle qui réclame l'emploi d'une seringue. « Trop soigné de ma personne ?» demanda-t-il à Odetta, souriant jusqu'aux oreilles. « Trop blanc, » répondit-elle laconique, puis elle garda le silence un moment, posant un regard sombre sur la mer. Eddie aussi resta silencieux. S'il existait une réplique à ce genre de commentaire, il ne la voyait pas. « Pardon, » finit-elle par dire. C'était méchant, totalement injuste, et ça ne me ressemblait pas du tout.
« C'est rien. »«
Si. C'est comme un blanc qui dirait « Mon Dieu, je n'aurais jamais pensé que vous étiez un nègre » à quelqu'un qui a la peau très claire. Ou préférez-vous voir comme une personne plus impartiale ? Ce qu'on préfère voir en soi et ce qu'on est en réalité n'ont bien souvent pas grand-chose en commun, serais-je tenté de penser, mais c'est exact. J'aime à me considérer comme sans parti pris. Veuillez donc accepter mes excuses, Eddie.
À une condition.
Laquelle ? Elle avait un peu retrouvé son sourire et il était content. Il aimait pouvoir la faire sourire. Que vous donniez impartialement sa chance à ceci. Telle est la condition. Donner impartialement sa chance à quoi ? L'amusement perçait dans sa voix. Pareille intonation l'aurait ulcéré chez un autre, lui donnant l'impression qu'on se foutait de lui, mais avec elle, c'était différent. Dans la bouche d'Odetta, ce ton à rien narquois ne posait pas de problème. Venant d'elle, supposait-il, rien n'aurait pu en poser.
À une troisième hypothèse. À la réalité de ce qui nous arrive. Je veux dire...
Il s'éclaircit la gorge.
Je ne suis pas doué pour toutes ces foutaises philosophiques ou pour, vous savez, la métamorphose ou je ne sais quel putain de nom vous donnez à ça.
La métaphysique.
Peut-être, j'en sais rien. Oui, ça doit être ça. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas refuser de croire à ce que vous disent vos sens. Car enfin, si votre théorie comme quoi tout ceci n'est qu'un rêve est exacte, je ne parlais pas d'un rêve.
Quoi que vous ayez dit, ça revenait à ça.
À une illusion.
S'il y avait eu, à un moment ou à un autre, une pointe de condescendance dans la voix d'Odetta, quelque condescendance que ce soit, elle avait complètement disparu.
Vous ne vous sentez peut-être aucune propension à la philosophie et à la métaphysique, Eddie, mais au lycée, vous deviez briller dans les débats.
Je n'y ai jamais participé. C'était bon pour les gays, les boudins et les chiffres molles, comme le club d'échecs.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par propension ?
C'est quoi une propension ?
Un penchant, ce qu'on aime bien faire.
Mais vous, que voulez-vous dire par gay ? Qui appelle-t-on des gays ?
Il la regarda un moment, puis haussa les épaules. Les homos, les tapettes.
Aucune importance, on pourrait passer la journée à faire des concours d'argot, ça ne nous mènera nulle part.
Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si tout ça n'est qu'un rêve, rien ne prouve que ce soit le vôtre.
Ce pourrait être le mien.
C'est vous qui pourriez n'être qu'un produit de mon imagination.
Le sourire d'Odetta s'altéra.
Mais personne ne vous a tabassé.
Vous non plus ?
Le sourire avait complètement disparu maintenant. Pas que je me souvienne, rectifia-t-elle avec quelque aigreur.
Et tout comme moi !
S'écria Eddie. Vous me dites qu'ils ont la matraque facile à Oxford Town. Mais ces types des doigts n'étaient pas précisément aux anges quand ils se sont aperçus que je n'avais pas la dope qu'ils comptaient trouver. L'un d'eux aurait très bien pu me caresser le crâne avec la crosse de son arme. Je pourrais être à Bellevue alors qu'il est en train de rêver de vous et de Roland pendant qu'ils rédigent leur rapport, expliquant comment, alors qu'ils m'interrogeaient, je suis devenu violent et qu'ils ont dû me calmer.
Ça n'est pas du tout pareil.
Pourquoi ?
Parce que vous êtes cette blague handicapée, intelligente et cultivée, prenant une part active à la vie de son pays, alors que je ne suis qu'un junkie de la cité.
Cela dit avec un grand sourire pour bien montrer qu'il blaguait. Mais elle ne l'en foudroya pas moins du regard.
J'aimerais que vous cessiez de me traiter de blague.
Il soupira.
Ok, mais il va falloir que je m'y habitue.
Vous auriez vraiment dû participer à des débats.
Mon cul,
dit-il. Et le regard qu'elle lui lança lui fit comprendre qu'entre elle et lui existait plus qu'une simple différence de couleur. Ils se parlaient à deux îles de distance. L'eau entre eux était du temps. Aucune importance. Le mot avait requis l'attention d'Odetta.
Ce n'est pas un débat que je veux avoir avec vous, c'est vous ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes bien réveillé. Voilà tout. Je pourrais être en mesure de me conformer provisoirement au principe de votre troisième hypothèse aussi longtemps que cette situation se poursuivra s'il n'y avait pas une différence fondamentale entre ce qui vous est arrivé et ce qui m'est arrivé à moi, dit-elle. Si énorme et si fondamentale qu'elle vous a échappé. Alors montrez-la-moi. Il n'y a pas de rupture dans votre conscience des choses, et il y en a une très grande dans la mienne. Que voulez-vous dire par là? Simplement que votre récit rend compte d'une chaîne ininterrompue d'événements, l'avion, l'incursion de cette... de lui, désigna les collines avec une répugnance visible, la mise en lieu sûr de la drogue, la garde à vue à la douane et tout le reste. C'est une histoire fantastique, mais qui se tient d'un bout à l'autre. Quant à moi, je suis revenu d'Oxford et Andrew, mon chauffeur, m'a ramené chez moi. J'ai pris un bain avec l'envie d'aller me coucher juste après. J'avais un mal de tête terrible et le sommeil est la seule chose qui me fasse du bien dans ces cas-là. Mais on n'était pas loin de minuit et je me suis dit que j'allais d'abord regarder les informations. Si certains d'entre nous avaient été relâchés, la grosse majorité moisissait toujours au violon quand j'avais quitté la ville. Je voulais savoir si on avait réglé leur cas. Je me suis séché, j'ai enfilé mon peignoir et je me suis installé devant la télé. Le présentateur a commencé par parler du discours que Khrouchtchev venait de faire à propos des conseillers militaires américains au Vietnam. Il disait « Nous avons des images qui ont été tournées » et puis plus rien. Je roulais sur cette plage. Vous me dites que vous m'avez vu franchir une sorte de porte magique à présent disparue et qu'avant j'étais chez Macy's et que j'étais en train de voler à l'étalage. C'est déjà passablement absurde, mais admettons. Vous ne croyez pas que j'aurais trouvé mieux à voler que des bijoux de pacotille dans ce cas? Je ne porte jamais de bijoux. Vous feriez mieux de jeter un nouveau coup d'œil sur vos mains, Odetta, dit tranquillement Eddie. À un long moment, son regard alla du solitaire sur son petit doigt gauche, une pierre trop vulgaire, trop grosse pour être autre chose que du strass, à l'opale débordant de l'annulaire gauche, trop vulgaire et trop grosse, elle aussi, pour être autre chose que bien réelle. « Rien de tout cela n'existe !» répéta-t-elle avec conviction. « Changez de disque !» Pour la première fois, sa colère n'était pas feinte. « Chaque fois qu'on perce un trou dans votre petite histoire bien nette, vous ne savez que vous réfugiez dans cette réponse. « Merde, réfléchissez un peu, Detta !» « Ne m'appelez pas comme ça, j'ai horreur de ça !» Sa réaction avait été si violente qu'Eddie eut un mouvement de recul. « Désolé, Seigneur, je ne pouvais pas savoir. Bon, je suis passé de la nuit au jour, d'un seul peignoir sur le dos à une tenue complète, de mon salon à cette plage déserte. » Et ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'une espèce de pansabière de shérif rougeau m'a collé son bâton sur le sommet du crâne. Et c'est tout. Mais vos souvenirs ne s'arrêtent pas à Oxford, lui fit doucement remarquer Eddie. Qu'est-ce ? Incertitude à nouveau, ou peut-être voir et refuser l'évidence, comme pour les bagues. Si vous avez perdu connaissance à Oxford, comment se fait-il que vos souvenirs aillent plus loin ? « Il n'y a jamais trop de logique dans ce genre de choses. » Elle s'était remise à se masser les tempes. « Et maintenant, si ça ne vous fait rien, Eddie, j'aimerais que nous mettions un terme à cette conversation. Mon mal de tête est de retour et s'annonce carabiné. » « À mon avis, la logique dans tout ça ne dépend que de ce que vous voulez croire ou ne pas croire. Je vous ai vu chez Mrs. Odetta. Je vous ai vu voler. » Vous me dites que ce n'est pas une chose que vous faites, mais vous me dites aussi que vous ne portez jamais de bijoux. Et vous me le soutenez après avoir, à plusieurs reprises, depuis que nous parlions, baissé les yeux sur vos mains. Vos bagues n'ont pas cessé d'y être, mais c'était comme si vous ne pouviez pas les voir tant que je ne vous y avais pas obligé en attirant votre attention sur elles. « Je ne veux plus parler de ça !» hurla-t-elle. « J'ai horriblement mal à la tête !»« D'accord !» « Mais vous savez très bien où vous avez perdu conscience de l'écoulement du temps. Et ça n'était pas à Oxford Town. « Laissez-moi tranquille !» dit-elle d'un ton morne. Eddie vit Roland qui redescendait vers eux, ses outres pleines, une autour de la taille, l'autre en bandoulière. Il avait l'air exténué. « Je voudrais vous aider, » ajouta-t-il à l'adresse d'Odette. « Mais pour que ce soit possible, il me faudrait être réel, je crois. » Il s'attarda encore un moment près d'elle, mais elle gardait la tête baissée, continuait de se masser les tempes. Il alla à la rencontre du pistolero. 8. Assieds-toi. T'as l'air à bout de force.
Je le suis. Je commence à être malade.
Eddie posa les yeux sur les lèvres craquelées de son compagnon, sur ses joues et son front qu'embrasait la fièvre, et hocha la tête.
J'espérais qu'il n'en serait rien, mais je peux pas dire que ça me surprenne. Le coup de batte des antibios était trop mou pour un parcours complet. Balazar n'avait pas assez de keflex.
Je ne comprends pas.
Avec la pénicilline, il te faut poursuivre le traitement un certain temps pour triompher de l'infection. Sinon, tu ne fais que la suspendre. Passe quelques jours et elle réapparaît. Il n'y a plus qu'à retrouver du keflex. Et on a encore une porte qui nous attend. Dans l'intervalle, tu vas simplement avoir à te ménager.
Eddie songeait toutefois non sans inquiétude au handicap d'Odetta et au trajet de plus en plus long qu'ils allaient avoir à faire pour trouver de l'eau. Il se demanda si Roland avait pu choisir un pire moment pour sa rechute. Sans doute, mais c'était déjà assez gratiné comme ça.
« Il faut que je te dise quelque chose à propos d'Odetta. »«
C'est son nom. »
Oui.
Mais il est charmant.
Oui, c'est aussi mon avis. Ce qu'il est moins, c'est ce qu'elle pense de cet endroit. Elle est persuadée de ne pas y être pour de vrai.
Je sais. Et elle n'a pas l'air de me porter dans son cœur. Hein?
Non, pensa Eddie, même si ta fonction de croque-mitaine ne te rend pas plus réelle à ses yeux.
Il le pensa, mais n'en dit rien et se contenta de hocher la tête.
Les raisons sont presque les mêmes, dit le pistolero.
Ce n'est pas la femme que j'ai ramenée de là-bas. Pas du tout.
Eddie ouvrit de grands yeux, puis acquiesça, tout excité. Le reflet entrevu dans la glace de la cabine d'essayage.
Ce visage tordu par la haine. Bon Dieu, Roland avait raison. Rien d'Odetta.
Puis il se rappela les mains qui avaient farfouillé négligemment dans les foulards, enfournant tout aussi négligemment la quincaillerie dans le sac ouvert sur les genoux, comme si, lui avait-il semblé, comme si elle avait voulu se faire prendre. Il y avait eu des bagues sur ses mains, les mêmes bagues.
« Ce qui n'impliquait pas nécessairement les mêmes mains, » s'écria-t-il mentalement. « Mais ça ne tient pas plus d'une seconde. » Il les avait étudiées, ses mains, c'étaient les mêmes doigts, longs, fuselés, tout en finesse.
« Non, » reprit le pistolero, « ce n'est pas elle. »
Son regard bleu se posa sur Eddie, l'examina.
« Les mains écoutent. »«
Écoute-moi bien. Notre vie peut en dépendre. La mienne, parce que je suis de nouveau mal, la tienne, parce que tu es amoureux. »
Eddie ne dit mot.
« Elles sont deux dans un même corps. » C'était une femme quand je suis entré en elle, une autre quand j'ai franchi la porte.
Là, Eddie ne vit plus rien à dire.
Et ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'étrange que je n'ai pas compris, ou alors que j'ai compris, mais qui m'a échappé depuis, et qui semble important.
Les yeux de Roland se portèrent au-delà d'Eddie, sur le fauteuil roulant, échoué, solitaire, au bout de sa courte trace qui naissait de nulle part. Puis ils se reportèrent sur le jeune homme.
Je ne comprends pas grand-chose, ni comment une telle chose peut être possible, mais il te faut rester sur tes gardes. Ça, tu le comprends?
Oui.
Eddie se sentait comme si l'air dans ses poumons s'était raréfié. Il comprenait. Du moins avait-il cette espèce de compréhension d'un rat des salles obscures, ce dont parlait le pistolero. Mais le souffle lui manquait pour l'expliquer, en tout cas pour l'instant. C'était comme si Roland le lui avait extirpé à coups de pied.
Bien. Ma parce que la femme dans laquelle je me suis retrouvé de l'autre côté de la porte était aussi dangereuse que ces espèces de homards géants qui sortent des vagues à la tombée de la nuit.